Alors effectivement, j'ai choisi, cela s'imposait, un abbé de cette étude que j'avais faite il y a une dizaine d'années, Nicolas, et j'ai choisi un titre à l'appel d'Elisabeth qui voulait un titre un petit peu sonnant bien, le terme d'énigmatique, parce que quand bien même on se lance dans l'étude d'une carrière d'un abbé, il y a beaucoup de choses qui restent au Moyen-Âge inexpliquées. Et plutôt que d'essayer de les résoudre, eh bien, j'ai préféré vous proposer un certain nombre d'interrogations. Alors, j'espère que vous n'en sortirez pas frustré, mais c'est vrai qu'il va y avoir des tas de choses où je vous dirai, ben voilà, je suis un peu prisonnière des sources, elles me disent telle ou telle chose, mais je ne peux pas toujours aller au bout des explications. Alors, donc, Nicolas, l'énigmatique abbé de Saint-Ouen de Rouen, dont l'abbatiat a duré 50 ans, puisqu'il commence en 1042 pour s'achever en 1092. Alors, pour introduire la conférence, je dirais que d'une manière générale, les abbés des maisons bénédictines de la Normandie des 10e, 12e siècles, c'est-à-dire depuis la fondation jusque 1204, au moment où l'abbaye ou la Normandie rentre dans le domaine royal, eh bien, les abbés sont généralement issus de familles de la moyenne ou de la petite aristocratie. Ce ne sont pas des abbés des grandes familles, de la famille ducale ou des grands aristocrates de la Normandie. Ce n'est en effet pas la naissance qui fait l'abbé. C'est plutôt l'acquisition d'une excellente formation, formation qui se déroule en premier lieu d'abord dans la vie laïque, car très peu d'enfants sont à cette époque du XIe siècle envoyés au monastère, comme c'était le cas aux époques précédentes, par exemple sous les Carolingiens. Il n'y a pratiquement plus d'enfants oblats, c'est-à-dire offerts par leurs parents, pour être élevés dans une abbaye, en général autour de l'âge de 7 ans. Et l'entrée dans un monastère se fait généralement vers l'âge de 20 ans, c'est-à-dire finalement assez tardivement. Et au bout d'une durée de 20 années encore, eh bien, un moine peut, s'il est élu par ses frères, devenir abbé du monastère. Donc en gros, si vous voulez, on devient en moyenne dans la Normandie des 10e, 12e siècles abbé à l'âge de 40 ans. Ce qui, pour l'époque, montre un âge avancé. Quelqu'un de 40 ans de l'époque devait physiquement être déjà plutôt comme quelqu'un d'aujourd'hui de 60 ans peut-être. Enfin, si tant est qu'on puisse le savoir pour tout le monde. Et c'est quelqu'un d'extrêmement expérimenté, surtout. Or, le schéma que je viens de dresser devant vous, qui est le résultat des enquêtes que j'ai menées pour faire l'œuvre dont parlait Elisabeth, eh bien, ne fonctionne pas du tout, mais pas du tout, avec Nicolas de Saint-Ouen de Rouen. Alors, je vais rappeler quelques données pour comprendre dans quel contexte Nicolas devient, en 1042, abbé d'une des plus prestigieuses abbayes bénédictines de la Normandie, avant de chercher à comprendre quelle fut la place qu'il a occupée à la fois dans l'Église normande, mais aussi dans la vie politique du duché, car à l'époque, les hommes d'Église, que ce soit des évêques ou des abbés, voire de personnages qui n'avaient pas forcément une fonction de responsabilité, jouaient un rôle dans la vie politique. Les débuts de l'abbaye Saint-Ouen, qui s'est d'abord appelée, comme vous le savez, Saint-Pierre, à l'époque mérovingienne, sont assez mal connus. C'est Dadon, qui s'appelle aussi Ouen, qui fut inhumé en 684 dans l'abbaye Saint-Pierre, et qui donna son nom donc à cette abbaye, qui passa du nom de Saint-Pierre à l'abbaye au nom de Saint-Ouen. La vie monastique, c'est-à-dire la présence de moines menant une vie régulière, en fait, ne commence vraiment, n'est réellement attesté qu'au IXe siècle. Et à cette époque, l'abbaye est étroitement mêlée, si vous voulez, liée au siège archiépiscopal, puisque dans cette région qu'on n'appelle pas encore la Normandie, il y a un archevêque, l'archevêque de Rouen, qui règne sur Coutances, Avranches, Lisieux, Bayeux, Cé, Évreux et Rouen. Sept diocèses. Il semble bien qu'au IXe siècle, je dis bien il semble bien que l'archevêque était aussi l'abbé de Saint-Ouen. Donc c'est le même personnage qui devait cumuler ces deux responsabilités à Rouen. L'arrivée des Scandinaves au milieu du IXe siècle va bousculer cette organisation et les moines vont devoir quitter Rouen, les moines de Saint-Ouen vont devoir quitter Rouen vers 880 pour se rendre dans deux lieux différents. D'une part, leur domaine qui se trouve dans le Soissonnais, à Condé-sur-Aisne, et d'autre part, dans le Luxembourg actuel, où ils détenaient un certain nombre de terres. D'autres communautés monastiques normandes ont suivi le même parcours, c'est-à-dire ont quitté le lieu où les moines menaient une vie monastique pour se réfugier, quelquefois en Île-de-France, quelquefois en Belgique, quelquefois au Luxembourg, voire ailleurs. Et donc, une fois que les Scandinaves se sont installés en 911 en Normandie, avec la création du duché, avec le premier duc Rollon, il fallait que les moines reviennent prendre possession de leurs abbayes. Et pour ce qui est de Saint-Ouen de Rouen, ils ont dû, point d'interrogation, revenir en 918, car on a des descriptions d'un retour de moines qui arrivent avec des reliques, et notamment les reliques de Saint-Ouen, leur saint fondateur, qu'ils avaient emportées avec eux. Ce premier retour, si vous voulez, en fait, on le considère généralement comme le point de départ du retour des moines en Normandie. Donc ce seraient ces moines de Saint-Ouen qui seraient, j'emploie le conditionnel, hein, qui seraient les premiers rentrés en Normandie. Alors en fait, on ne sait pas qui est abbé de Saint-Ouen à ce moment-là, on ne sait pas si c'est l'archevêque qui continue de gouverner l'abbaye dont les moines reviennent en 918. Par la suite, il n'est pas certain que l'archevêque Hugues de Rouen, qui est bien attesté, qui va exercer l'archiépiscopat entre 942 et 989, soit également abbé. L'histoire des archevêques de Rouen l'évoque, mais il n'y a pas de certitude. En tout cas, un abbé, qui s'appelle cette fois Hildebert, avec un H, a été de façon très certaine, le premier abbé solidement attesté entre, sans doute, je dis bien sans doute, 959 ou 960 et 1006. Il est considéré par tous les textes postérieurs comme le restaurateur efficace de la vie monastique à Saint-Ouen. En effet, les textes nous disent que sous son abbatiat, les moines suivent la règle bénédictine. Suivre la règle bénédictine, c'est-à-dire assistent aux offices, prient en communauté, obéissent à l'abbé, élisent l'abbé, etc. Hildebert va même, et de cela on est certain, assister à la seconde arrivée de reliques de Saint-Ouen, car tout le corps de Saint-Ouen n'était pas revenu en 918, et une seconde arrivée en 989, qui est bien attestée par un certain nombre de textes, écrits légèrement postérieurement, mais les historiens qui ont observé, analysé ces textes, démontrent qu'il n'y a aucune raison pour ne pas être convaincu de cela. Et cette cérémonie de la translation de 989, eh bien, elle se fait en présence non seulement de Hildebert, mais des évêques de Bayeux, Lisieux, Évreux, et des abbés Ménard du Mont-Saint-Michel et Fromont de Saint-Aurin d'Évreux, deux abbayes qui retrouvent également leurs moines. Hildebert, toujours lui, est également présent lors d'une autre cérémonie qui se déroule cette fois en 990 à Fécamp, très exactement le 15 juin 990, le jour où est en quelque sorte confirmé l'existence du retour des chanoines de Fécamp qui eux avaient fui au moment de l'arrivée des Vikings. Donc c'est une grande cérémonie qui montre la réunion de ces grandes l'église normande qui sont en train de prendre en main en quelque sorte la restauration de la vie religieuse en Normandie. Hildebert va avoir deux successeurs entre 1006 et 1042, qui s'appellent Henri et Erfast, et qui, de leur côté, ont cherché également à faire revenir des reliques, d'autres reliques que celles de Saint-Ouen, et à reconstituer le patrimoine, parce qu'il faut bien que les moines vivent, et ils tirent des revenus de leurs terres, de leurs domaines, qui font vivre la communauté. On ignore absolument d'où sont venus Henri et Erfast, les deux abbés qui ont donc exercé l'abbatiat après cette île de Berre, et qui vont mourir, et après quoi, c'est Nicolas qui va arriver. Alors, je voudrais encore évoquer quelque chose de très important. Henri est aux commandes de Saint-Ouen en 1006, et depuis 5 ans, depuis la date de 1001, Guillaume de Volpiano, un Italien passé par Cluny, par la Lorraine, par la Bourgogne, où il a restauré des monastères, a été appelé par le duc de Normandie pour remettre en place, en quelque sorte, pour restaurer le monachisme normand. Et on a pensé pendant longtemps que Guillaume avait entraîné à sa suite, dans son sillage, un certain nombre d'abbés pour qu'il l'aide dans cette tâche. Henri, selon moi, mais là encore, il faut prendre les choses avec beaucoup de précaution, n'a pas été à l'école de Guillaume de Volpiano. Et je ne pense pas que l'abbaye Saint-Ouen ait été une abbaye réformée par Guillaume de Volpiano. En tout état de cause, lorsqu'en 1042, l'abbé est Nicolas, eh bien, Saint-Ouen a récupéré son patrimoine, il a récupéré un certain nombre de reliques, et donc l'abbaye bénédictine fonctionne parfaitement bien. Il y a une communauté dont on ne connaît pas le nombre de moines, mais il y a tout lieu de penser qu'il y a peut-être une quarantaine de moines à Saint-Ouen de Rouen. Alors j'en arrive à cet abbé, donc Nicolas, que je considère comme énigmatique, et énigmatique à plus d'un titre. Nous allons commencer par nous demander qui est ce Nicolas, d'où il vient, qu'en savons-nous en 1042, pourquoi est-il sur le siège de Saint-Ouen, chose qui n'est pas aisée dans la mesure où pour ses prédécesseurs, je vous ai dit qu'on n'en savait en fait strictement rien. Alors, la documentation provient de plusieurs sources. Premièrement, c'est Ordéric Vital, qui est un moine anglo-saxon qui est arrivé en Normandie en 1085 à l'âge de 7 ans, dans l'abbaye de Saint-Évroult au sud de la Normandie, qui nous dit un certain nombre de choses. Il a sans doute connu Nicolas, puisque Nicolas va mourir en 1092. Il l'a peut-être rencontré, puisqu'on sait qu'Ordéric Vital venait à Rouen. Il n'est pas impossible que lors de cérémonies qui ont pu se dérouler entre 1085 et 1092, l'enfant Ordéric Vital ait aperçu Nicolas. Toujours est-il que lorsque Ordéric écrit longtemps après 1092, il nous dit que Nicolas est le fils du duc de Normandie, Richard III, lui-même, attendez, je vais mettre l'image suivante, voilà, qu'il est le fils de Richard III, Richard III étant le fils aîné de Richard II et de Judith de Bretagne, Richard III est duc de Normandie, et Richard III fut marié à la deuxième fille du roi de France, du roi capétien Robert le Pieux, et de la reine Constance de Provence. Cette reine nommée Adèle. Mais le mariage ne fut jamais consommé, car Adèle était en très bas âge quand Richard III accéda au pouvoir le 23 août 1026. Richard III avait une concubine dont il eut un fils qui dut naître en 1027, juste avant le décès de Richard III. À la mort de Richard III, sans doute le 6 août 1027, Robert le Magnifique, son frère, le frère de Richard III, écarta l'enfant, donc le fils de Richard III et de la concubine, et Robert devint duc. Alors, à l'époque, il n'y a pas de règle écrite pour la succession des ducs, mais en réalité, le fils aîné succédait toujours à son père. Et donc, le jeune Nicolas aurait dû devenir duc de Normandie alors qu'il l'avait... Il n'était même pas âgé d'un an. L'enfant, toujours selon Ordéric Vital, fut envoyé alors à Fécamp, grande abbaye restaurée par Guillaume de Volpiano, par son oncle Robert le Magnifique, pour y être élevé, éduqué, et il devint donc oblat. Mais on ne sait pas ce qu'il advint de ce petit garçon entre sa naissance et l'âge de 7 ans. C'est sans doute vers 7 ans qu'il est allé à Fécamp. Qu'a-t-il fait avant? Il a dû être élevé dans la famille royale. Par qui? On ne sait pas. Par la concubine? Par d'autres? Point d'interrogation. Son nom, Nicolas, apparaît dans un acte conservé en original, donc cette fois il n'y a pas de doute, dans lequel un certain Hugues de La Ferté, avant 1045, donne à l'abbaye Saint-Ouen l'abbaye de Cigy-en-Bray, qui deviendra un prieuré de Saint-Ouen. On trouve encore Nicolas dans un acte de 1074, dans lequel l'archevêque Jean d'Avranches, il a été avant évêque d'Avranches, donc on l'appelle Jean d'Avranches, mais il est archevêque de Rouen, en fait son cognatus. Son cognatus, ça veut dire son parent. Alors cet acte est peut-être une création, un faux acte, mais en tout état de cause, dans un faux acte, il y a toujours un peu de vrai. Donc, et Jean d'Avranches, de toute façon, c'est un personnage de la famille ducale, puisque son père, Raoul d'Ivry, est le frère utérin du duc Richard Ier. Donc on est dans la même famille. C'est normal que Jean parle de Nicolas en disant « mon parent ». Alors, vous savez donc maintenant qu'il est le fils du duc et d'une concubine. Vous savez que son oncle l'a casé à Fécamp, pour l'éloigner sans doute, pour l'instruire. Ce que vous allez maintenant savoir, c'est pour quelle raison il s'appelle Nicolas. Il faut nous interroger sur cette question. En effet, rien ne nous dit que ce sont ses parents, Richard III et sa concubine, qui l'ont affublé de ce nom. En effet, lorsqu'on est un fils de duc de Normandie à cette époque, on doit s'appeler Robert, Richard ou Guillaume. Et il n'y a aucune raison, surtout quand on a toutes les chances de pouvoir régner. On ne va pas aller chercher un nom qui ne soit pas dans ce qu'on appelle le stock onomastique du lignage de Roland, le premier duc. Selon une chronique de la fin du Moyen-Âge, il fut instruit à la Trinité du Mont, l'autre abbaye rouennaise fondée en 1030. Et il reçoit à ce moment-là l'éducation de l'abbé Isambert, le premier abbé de la Trinité du Mont. Ce serait Robert de Magnifique qui confia son neveu à Isambert. Cet Isambert, il est bien connu, il est d'origine allemande. Il avait été le chapelain du duc de Normandie, Robert le Magnifique, donc celui qui est le frère de Richard III. Puis, il avait été moine de Saint-Ouen de Rouen sous l'abbé Henri, et on nous dit à ce moment-là qu'il n'est tenu inférieur à personne dans les arts libéraux. Donc il a une solide instruction lui-même, peut-être acquise en Allemagne, peut-être acquise à Saint-Ouen de Rouen. Et on nous dit aussi qu'Isambert introduit dans son abbaye de la Trinité du Mont les chants de Saint-Ouen et de Saint-Nicolas. On nous dit encore qu'il brille par sa sagesse, qu'il était un grand érudit, qu'il était parfait dans la religion. Et Ordéric Vital nous dit encore que Nicolas fut entraîné dans les lettres depuis l'enfance et qu'il doit donc d'avoir été instruit en latin et en grammaire par Isambert de la Trinité du Mont, passé par Saint-Ouen. Donc très tôt dans l'enfance, il a appris le latin et la grammaire. Isambert, qui fut placé par Robert le Magnifique sur le trône abbatial de la Trinité du Mont, est un homme de confiance du duc qui lui assigne sans doute, sans aucun doute, la responsabilité de l'instruire et d'empêcher surtout que se forme autour de l'enfant un noyau de conspirateurs, puisque le fils de Richard III, aurait dû, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, accéder à la tête de la Normandie, au Principat. Il n'est donc pas impossible, et c'est une hypothèse que je forme, il n'est donc pas du tout impossible que le nom de Nicolas lui ait été donné dans l'enfance par Isambert. Peut-être ses parents l'avaient-ils appelé Robert, Richard ou Guillaume, et Isambert, obéissant en quelque sorte à Robert le Magnifique, qui lui demande de l'instruire et surtout pas de lui apprendre à conspirer, l'affuble d'un autre nom, le nom d'un grand saint, dont je vous reparlerai, et qui est un saint particulièrement vénéré à la Trinité du Mont et à Saint-Ouen de Rouen. En effet, Isambert avait très vraisemblablement apporté en Normandie des reliques de Saint-Nicolas, particulièrement vénérées dans l'Empire romain dès le IVe siècle, et on sait qu'il rédigea pour les moines de Saint-Ouen et de la Trinité un office de Saint-Nicolas dont le culte prospéra en Normandie à partir du XIe siècle. Alors, ce Nicolas fut évêque de Myre, aujourd'hui c'est la ville de Demre, sur l'actuelle côte de la Lycie turque. C'est un évêque qui est assez mal connu, mais des fouilles archéologiques faites ces 10 dernières années en Turquie montrent que la ville était une sorte de plaque tournante du commerce du blé sur la côte lycienne. On a retrouvé en effet des traces archéologiques très importantes d'un marché au blé, de silos de blé. On a retrouvé une église dédiée à Saint-Nicolas. Bref, c'était un évêque particulièrement vénéré qui a peut-être même participé au concile de Nicée en 325, un concile important pour la définition du dogme de l'Église. Et en tout cas, les reliques de ce Nicolas, entre guillemets turc, si vous voulez, hein, romain, eh bien, furent apportées en Germanie par l'impératrice Théophano, qui était une impératrice byzantine, qui épousa un roi de Germanie et qui mourut en 991. Alors, c'est mon hypothèse, mais depuis que je l'ai mis sur la place publique, en quelque sorte, eh bien, un de mes collègues professeurs de droit à Nanterre, qui a exercé ici à la faculté de droit, Gilles Devin Davy, dont le nom vous dit peut-être quelque chose, a émis une autre hypothèse. Il a fait de la concubine de Richard III une orientale, une femme venue de l'Empire byzantin. Je n'y vois aucun inconvénient, ça n'annule pas mon hypothèse. Cette femme aurait pu vénérer Saint-Nicolas également, puisque Saint-Nicolas était particulièrement honoré l'actuelle Turquie, dans l'Empire byzantin. Des reliques de Saint-Nicolas inhumées à Myre, dans le territoire byzantin, furent de toute façon emportées de Germanie en Normandie dans les années 1030. En tout état de cause, à Rouen, dans les années 1030-1040, la vie intellectuelle est très vivante. Une école de grammaire existe à la cathédrale. Et l'archevêque lui-même, l'archevêque de l'époque, c'est Maugé, lui-même fils de Richard II, est un homme féru de droit canon. Un de mes collègues anglais a démontré ces dernières années que, contrairement à ce qu'on avait toujours dit, Maugé était un excellent archevêque. En fait, Maugé traînait une réputation épouvantable d'un homme qui s'occupait plus des femmes ou d'autres choses que de la religion. Et en réalité, l'examen des sources, le réexamen des sources, tend à montrer que déjà dans les années 1045 et 1055, eh bien, Maugé va introduire déjà des éléments de la réforme religieuse en Normandie, ce qu'on appellera plus tard la réforme grégorienne. En tout cas, Isambert fut un chanoine de la cathédrale et il a bénéficié d'une solide instruction qu'il a donnée à son tour au jeune Nicolas. Alors, c'est encore adolescent, à l'âge de 15 ans, en 1042, si on considère qu'il est né en 1027, que Nicolas devient abbé de Saint-Ouen de Rouen. Mes enquêtes ont montré qu'en moyenne, dans la Normandie des Ducs, on ne devient jamais abbé avant l'âge de 40 ans. Et après avoir passé, comme je vous le disais tout à l'heure, quelques années dans la vie civile, dans la vie laïque, et puis une vingtaine d'années au sein d'un monastère où on peut acquérir parfois des responsabilités en étant titulaire d'un office claustral. On peut être, par exemple, célérier de l'abbaye, on peut être un prieur, on peut être le chantre, parfois même un jardinier devient abbé. En tout cas, des hommes qui ont éprouvé leur connaissance, leur foi, qui ont acquis une certaine expérience de la vie monastique. Nicolas est quasiment la seule exception au sein de l'abbatiat normand durant toute la période ducale. Je n'ai pas d'autres exemples d'un jeune garçon de 15 ans qui devient abbé, qui plus est d'une abbaye aussi prestigieuse que celle de Saint-Ouen de Rouen. Ordéric Vital, toujours lui, nous dit qu'il a été désigné par le duc Guillaume. Donc, en fait, c'est une nomination. Ce qui se passait généralement, c'est que le duc débarquait dans un établissement monastique et discutait avec les moines chargés de l'élection et leur disait ben voilà, vous avez intérêt à élire machin. Donc les moines se réunissaient, il y avait une véritable élection selon les règles voulues par saint Benoît dans la règle bénédictine, et puis on disait il a été élu unanimitaire, à l'unanimité, en fait, par derrière, le duc avait tout préparé. Et je dois dire que, d'une manière générale, c'était dans l'intérêt, évidemment, des moines d'avoir à leur tête un homme comme Nicolas, qui appartenait à la famille ducale et qui ne pouvait que être un élément tout à fait positif pour l'établissement. Alors, à cette époque, la désignation des abbés, mais aussi des évêques, en fait, est entre les mains des ducs. Nulle part en Occident, on ne respecte le droit canon pour ce qui est des évêques ou la règle bénédictine pour ce qui est des abbés. Et le choix se porte généralement sur un membre de la petite aristocratie ou de la moyenne aristocratie locale, mais très peu souvent sur un membre de la famille ducale. D'où l'aspect énigmatique de ce schéma. Alors, il y a un autre élément qui pose problème, c'est que, si on s'en tient à ce que nous dit Ordéric Vital, Nicolas serait resté diacre. Rester diacre, ça veut dire qu'il n'a pas été élevé à la prêtrise, il n'est pas prêtre, et s'il n'est pas prêtre, ça pose de graves problèmes pour la communauté monastique parce qu'il ne peut pas célébrer la messe. Or, l'abbé doit chaque jour célébrer au moins une messe pour la communauté, quand ça n'est pas deux messes. Et puis le dimanche, évidemment, il y a la grande messe pour non seulement la communauté, mais éventuellement les gens du voisinage. Depuis les origines, l'abbé bénédictin devait être prêtre. Les moines ne sont pas toujours ordonnés. Ils le seront de plus en plus à partir du XIe siècle, parce que l'aristocratie réclame des messes privées pour assurer le salut de ses défunts, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de moines prêtres. Donc on assiste à une sorte de cléricalisation du monachisme au XIe siècle, j'emploie une grande formule pour dire que de plus en plus de moines deviennent prêtres. En tout cas, de toute façon, un abbé devait être prêtre, même si ça n'était pas inscrit dans la règle bénédictine, dans la mesure où il doit célébrer la messe pour sa communauté, et évidemment, il doit être prêtre. Alors, à ma connaissance, et si c'est vrai, Nicolas serait le seul à n'avoir pas accédé au sacerdoce dans toute la Normandie des XIe, XIIe siècles. Alors, je dis bien si c'est vrai, parce qu'après tout, il est peut-être devenu prêtre et Ordéric Vital n'a pas mis ses connaissances à jour. Et puis, pour d'autres abbés, en fait, il n'est même pas écrit qu'ils sont prêtres ou qu'ils sont diacres. Donc je pose pour hypothèse qu'ils sont tous prêtres. Il se trouve que pour Nicolas, j'ai une information qui retient mon attention. Alors, essayons d'aller un petit peu plus loin. S'il est resté diacre, ou plutôt s'il était diacre en 1042, c'est peut-être parce qu'il était trop jeune pour recevoir l'ordination. Peut-être a-t-il été ordonné plus tard, mais Ordéric Vital ou d'autres ne nous le disent pas. Cela tombe peut-être sous l'évidence, donc ce n'est pas la peine de le dire. Pourquoi Ordéric n'est-il pas plus précis? En général, il nous livre des informations, certes il écrit longtemps après, mais ces informations, quand on peut les recouper, elles sont dignes de foi. En tout cas, placer Nicolas à la tête de la prestigieuse abbaye rouennaise était un moyen pour Guillaume d'écarter Robert le Magnifique, Placer Nicolas à la tête de la prestigieuse abbaye rouennaise était un moyen pour Guillaume d'écarter son cousin. Nicolas était son cousin, du même âge que lui, puisque Guillaume était né en 1027, comme lui. L'écarter de la succession tout en le plaçant dans une situation de proximité. Rouen est une des capitales, est la capitale du duché en 1042. Une situation de proximité, voire de subordination, puisque une fois élu, le nouvel abbé devait aller à la rencontre du prince pour le saluer en tant qu'abbé. Jusqu'au milieu du XIe siècle, c'était le duc qui conférait encore la double investiture, à la fois temporelle et spirituelle, par la remise de la crosse. La crosse abbatiale était remise par le duc à l'abbé, ce qui est absolument contraire au droit canon qui est en train de se mettre en place. Plus tard, l'évêque concédera le pouvoir interne sur les âmes au cours de la bénédiction, c'est-à-dire remettra la crosse et remettra la règle bénédictine, mais on n'en est pas encore là en 1042. Il faudra attendre le début du XIIe siècle pour que l'évêque, en application du droit canon, remette l'abbaye à l'abbé. On n'en est pas là. En 1042, c'est le duc qui a conservé cette prérogative qui date des Carolingiens, puisque Charlemagne remettait les abbayes, nommait les abbés et les évêques. Par conséquent, la place occupée par les abbés en Normandie dépendait moins de leur fonction que de leur relation personnelle avec le maître du duché. Sous le principat de Robert le Magnifique, l'abbaye de Saint-Ouen occupe une place prédominante. C'est l'une des principales maisons sur lesquelles le duc s'appuie. Ainsi, il choisit un moine de Saint-Ouen, Isambert, pour devenir l'abbé de la Trinité du Mont. Et lorsqu'il cherche à restaurer des monastères dans l'ouest du duché, comme par exemple à Cerisy, en 1032, il nomme un moine de Saint-Ouen de Rouen. Même chose pour le troisième abbé de Cerisy, qui s'appelle Garin, entre 1033 et 1066. Cet homme viendra de Saint-Ouen. Donc Saint-Ouen a acquis au temps de Robert le Magnifique, enfin, c'était déjà le cas avant, mais Robert le Magnifique s'appuie sur Saint-Ouen de Rouen, et Guillaume, lorsqu'il nomme Nicolas, eh bien, fait aussi de cette abbaye une abbaye qu'il aura à l'œil en quelque sorte en nommant son parent. Alors, j'ai écrit sur l'image qui est au tableau, béni par l'archevêque Mauger. En fait, c'est sans doute comme cela que ça a dû se passer, mais on ne le sait pas, les sources ne nous le disent pas. La bénédiction d'un abbé, elle se faisait au cours d'une messe. Au milieu de la messe, on arrêtait la cérémonie, on faisait venir l'abbé près de l'autel, et l'évêque, l'archevêque en l'occurrence ici, puisqu'on est à Rouen, remettait la crosse. En fait, le duc la lui avait remise, mais l'évêque manifestait que cette crosse, elle revêtait une signification temporelle. La crosse, c'est le bâton pastoral avec lequel l'abbé va conduire le troupeau, c'est-à-dire les moines de sa communauté. Je dis le troupeau parce que les textes latins disent toujours troupeau, grex, c'est le troupeau. Bénédiction, donc, est remise de la règle de Saint-Benoît, et puis ensuite, on reprenait le cours de la messe. Après cette bénédiction, le nouvel abbé devait retourner, donc sortait sans doute de la cathédrale de Rouen, allait dans son abbaye, et là il était intronisé. Plus tard, on sait qu'il rentrera pieds nus et qu'il est accueilli par le prieur et les moines de l'abbaye. Il va partager un repas et puis il célébrera une messe. À cette époque, on ne sait pas exactement si les choses se déroulent comme ça. Je voudrais quand même revenir sur le rôle de l'archevêque de Rouen dans cette cérémonie. Un peu plus tard, dans le courant de la fin du XIe siècle et surtout au XIIe siècle, l'archevêque de Rouen exigera de tous les abbés de son diocèse, de Rouen, et il en sera de même notamment dans l'évêché de Bayeux, de l'évêque de Bayeux vis-à-vis des abbayes de son diocèse, exigeront une promesse d'obéissance à l'église de Rouen, l'église du diocèse de Rouen, et même l'église de la province ecclésiastique de Normandie. On n'en est pas là, mais parce qu'en fait on n'a pas de source et que visiblement ça n'est pas encore entré dans les coutumes religieuses, mais on peut à coup sûr se dire que si Mauger avait demandé à Nicolas une profession d'obéissance, un serment d'obéissance, un serment de fidélité, Nicolas aurait certainement répondu positivement. Il venait d'être élu grâce au duc, il n'allait pas dire « non, non, moi je ne veux pas obéir à l'archevêque ». Bien. Comment put-il célébrer sa première messe abbatiale à Saint-Ouen ? Point d'interrogation, là encore je ne peux répondre. Alors, peut-être y avait-il soit dans le clergé de la cathédrale, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas, soit parmi les moines de Saint-Ouen, un homme revêtu de la dignité sacerdotale qui célébra la première messe avec peut-être Nicolas placé au premier rang ou à côté, ou peut-être pas parmi les enfants de cœur, parce que ça, c'était le réduire à peu de choses. Mais la question se pose et je n'ai pas de réponse. Mon PowerPoint n'est pas tout à fait dans l'ordre. Alors, voilà Nicolas Abbé, dans les circonstances que vous avez comprises. Que fait-il une fois qu'il est abbé à Saint-Ouen, c'est-à-dire entre 1042 et 1092, un abbatiat qui va durer 50 années, beaucoup plus long que la moyenne des abbatiats qui, généralement, sont de 20 années. Il a eu un abbatiat qui est parmi les plus longs de tous ceux que j'ai examinés pour mes enquêtes. Alors, on va examiner l'activité de Nicolas, qui présente plusieurs facettes. Je vais commencer par son œuvre liturgique. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, au début de mon intervention, la collecte des reliques, qui avait été faite alors bien avant Nicolas, 918-989, et puis les abbés Henri Hildebert, Henri et Erfast ont eux aussi essayé de collecter des reliques. Pourquoi collecter des reliques? Tout simplement parce que ces reliques qui représentent le saint sont priées, les saints sont priés, sont vénérés, font l'objet d'offices, et à chaque anniversaire de ce qu'on appelle le dies natalis, c'est-à-dire le jour de la mort du saint, eh bien, lorsque un personnage est particulièrement vénéré dans un établissement, on va célébrer un office spécial, un office propre, selon des règles bien établies. Donc il est important d'avoir des reliques de saints. Par ailleurs, ça permet aussi de fidéliser des laïcs qui vont venir prier les saints dans le monastère. Ces prières ne sont pas forcément gratuites, c'est l'occasion aussi pour les laïcs de verser une obole au monastère. Alors, il ne faut pas oublier que les moines ont une fonction première, c'est la prière. Et les moines prient pour les vivants. Les moines prient pour les vivants, et cette prière, au Moyen-Âge, elle se monnaye. Monnayer, demander une prière, requiert de payer cette prière, c'est un acte éminemment religieux que de payer une prière. Il faut bien essayer de se mettre dans l'esprit du Moyen-Âge. Alors, Nicolas va poursuivre la quête de reliques, et certains historiens n'hésitent pas à dire même qu'il a été, quand je dis certains historiens, c'est une de mes étudiantes qui a étudié le culte des saints dans le diocèse de Rouen, qui n'hésite pas à dire que Nicolas était un vrai collectionneur de reliques. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. En 1053, ça n'est pas sur les diapos, en 1053, il va en quelque sorte prêter l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen aux moines de Saint-Vandry, qui vont en une procession des reliques de Saint-Vulfran, qui est un saint particulièrement honoré à Saint-Vandry, qui est un des saints fondateurs de Saint-Vandry, prêter son abbaye parce que les moines de Saint-Vandry, pour essayer d'endiguer une sécheresse effroyable et une grande mortalité qui sévissait dans le pays de Caux, avaient décidé de promener les reliques de Saint-Vulfran dans différentes églises, et notamment à Rouen. Et donc, il fallait de temps en temps que ceux qui portaient les brancards portant les reliques, si vous avez assisté peut-être à des processions de la Semaine Sainte en Espagne, vous avez peut-être vu ces gens très costauds qui portent des statues ou des reliques sur des brancards, sur leurs épaules. C'est très lourd, c'est fatigant. Et donc, il fallait s'arrêter de temps en temps. Et on faisait une station, un arrêt, dans les églises de Rouen, notamment, et ailleurs dans le pays de Caux. Et bien donc, Nicolas met Saint-Ouen à disposition des moines de Saint-Vandry. Nicolas va également, avec le nouvel archevêque de Rouen qui a remplacé Maugé, qui s'appelle maintenant Morille, et qui est un moine venu d'Allemagne d'ailleurs, un moine bénédictin venu d'Allemagne. Donc sans doute s'entend-il bien avec lui, puisque Isambert fut son instructeur allemand aussi. Eh bien, Nicolas va réorganiser avec Morille à partir de 1055, la cérémonie de la fête de Saint-Ouen. Saint-Ouen, donc le saint de son abbaye, et cette fête se déroulait chaque année le 24 août. Et l'organisation qui est donc nouvelle et mise en place par Nicolas et Maury est la suivante. L'archevêque et les chanoines sortaient de leur cathédrale, venaient chanter et se rendre après tierce pour chanter la messe. Ils devaient s'installer sur le côté gauche du chœur de Saint-Ouen, donc de l'abbatiale Saint-Ouen, tandis que les moines, pour leur part, se situaient à droite. À la messe, les premières prières de l'introïte, du Kyrie et du Gloria étaient partagées, alors que les chanoines chantaient ensuite l'épître. Le graduel dominait Praevenisti, les moines se mettaient à chanter l'Alléluia et plusieurs autres chants, et notamment l'Évangile et l'Offertoire. Puis ensuite, on chantait, chanoines et moines se mettaient à nouveau à chanter ensemble. Donc cette organisation, qui paraît très codifiée, est très importante pour la suite de ce que je vous dirai tout à l'heure. Donc en principe, chaque année, le 24 août, moines et chanoines se retrouvaient à Saint-Ouen pour célébrer le saint fondateur de l'abbaye. Toujours dans les activités de Nicolas, sa participation à la vie religieuse de la Normandie se traduit par sa présence à de très grandes cérémonies religieuses et liturgiques. Alors, je vous donne quelques exemples. Entre 1063 et 1066, il est présent lors de la fondation de la collégiale Saint-Martin des Cajoles, qui se trouve près de Caen. Et on sait que furent aussi présents l'abbé Durand Ier de Troarn, avait été restauré en 1059, et l'abbé Hénard, le premier abbé de Saint-Pierre-sur-Dive, qui fut fondé en 1047. Donc ça devait être une grande cérémonie, sans doute avec plusieurs évêques également, mais les textes ne nous disent pas qui sont ces évêques. Par ailleurs, et de manière beaucoup plus importante cette fois, Nicolas assiste. Alors, vous pouvez regarder, c'est la deuxième ligne de l'image, à la dédicace de l'abbaye bénédictine de Femmes de la Trinité de Caen le 18 juin 1066. Cette date est extrêmement importante. En effet, cette abbaye avait été créée par Mathilde, l'épouse du duc Guillaume, et elle a sans doute été fondée en 1059. Donc le temps qu'on réunisse les premières religieuses, le temps qu'on construise l'abbaye, la dédicace, généralement, avait lieu souvent plusieurs années, parfois même plusieurs dizaines d'années après, quand les travaux de construction prenaient du retard. Là, cette fois, les choses sont allées assez vite. Donc, le 18 juin 1066, on a des relations très précises de la cérémonie, parce qu'on conserve un acte de Guillaume et de Mathilde rapportant, en quelque sorte, la cérémonie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que à la fin de l'acte, se trouvent les souscriptions, en quelque sorte les signatures des présents, et furent présents 8 abbés de la Normandie bénédictine. En gros, il y avait à peu près 25 abbayes à cette époque-là, pas tout à fait 25, une vingtaine, 8 sont présents, et le premier cité, c'est Nicolas. Alors, il faut se poser la question de savoir pourquoi. Parmi toutes les hypothèses que je n'évoquerai pas devant vous, il y en a une qui me paraît intéressante. Il est sans doute, aux côtés du duc Guillaume, celui qui joue un rôle important en matière religieuse, mais aussi en matière politique. Et je le redirai dans un instant. Mais je vais continuer avec les affaires religieuses. En effet, je vous ai dit tout à l'heure qu'une de mes étudiantes avait considéré que Nicolas était un vrai collectionneur de reliques. Et voilà pourquoi elle peut le dire. En effet, en 1090, alors c'est assez tard dans sa carrière, puisque on sait aujourd'hui qu'il est mort en 1092. Il est âgé. Sans doute, cela n'a-t-il pas été facile. Sans doute a-t-il dû négocier avec l'abbé de Saint-Médard de Soissons, où les reliques qu'il convoitait étaient encore conservées. On ne fait pas venir les reliques comme ça d'un coup d'épée, en quelque sorte, parce que je dis d'épée, mais d'épée au sens moral, parce que c'est une vraie bagarre, parfois, pour essayer de se procurer des reliques. Elles sont aussi souvent monnayées. Mais ça, les textes ne nous le disent pas. Si elles l'ont été, on ne le sait pas. Alors, en 1090, il va donc se procurer les reliques de la tête de Saint Romain, archevêque de Rouen, prédécesseur de Ouen, protecteur de la cathédrale, qui était conservée, comme je vous le disais, à Saint-Médard de Soissons depuis le IXe siècle, depuis que les moines avaient dû fuir les invasions scandinaves. Il s'agit, en se procurant le chef, la tête de Saint Romain, pour les moines, et donc pour Nicolas, de contrebalancer l'influence de la cathédrale, dans laquelle l'archevêque de l'époque, Guillaume Bonham, a fait transporter, lui, le corps de Saint Romain à une date inconnue. Donc il y a une sorte de guéguerre qui s'instaure entre la cathédrale et l'abbaye Saint-Ouen pour la possession des reliques de Saint-Romain. Nicolas se procure encore le bras de Saint-Godard, qui avait été évêque, qui était mort évêque à Rouen en 520, les reliques de Saint-Rémy, archevêque de Rouen, mort en 771, de Saint-Médard, sans doute le frère de Godard, archevêque de Rouen, mort en 490, des reliques des saints innocents, des reliques de Saint-Serène, peut-être un martyr grec mort sous Dioclétien, à moins que ce soit un évêque mort à Marseille en 606. C'est pas très bien. Et toutes ces reliques, il les a donc négociées avec celui que les textes appellent son ami, l'abbé Saint-Médard, l'abbé de Saint-Médard de Soissons, qui s'appelle Odon. Alors, son ami, les textes le disent, hein, pour nous montrer que les choses se sont faites normalement. Il ne faut pas être dupe, ça peut-être était difficile, parce que l'abbé de Saint-Médard de Soissons, en les donnant ou en les vendant à Rouen, il perdait d'importantes reliques qui étaient peut-être l'occasion de vénération, soit de ses moines, soit des laïcs des alentours. Alors, toutes ces reliques furent d'abord déposées dans l'église priorale, l'église du prieuré Saint-Michel-du-Mont, puis ensuite apportées à Saint-Ouen en grande procession, en présence de l'archevêque de Rouen, Guillaume Bonham, mais c'est obligatoire, car une translation ne peut pas se faire sans un évêque. Le responsable de la sainteté dans un diocèse, c'est l'évêque. Donc, même si c'était une guéguerre avec l'archevêque, il fallait qu'il soit là pour que la translation, c'est-à-dire le transfert de ces nouvelles reliques, soit validée, en quelque sorte. Et puis, Nicolas avait également convié l'abbé Gauthier de la Trinité du Mont de Rouen. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de constater qu'en fait, la translation du chef de Saint-Romain n'a pas servi à grand-chose. En effet, dans la foulée de cette translation, on a composé un recueil de miracles pour bien montrer que le saint romain servait à quelque chose. Et en fait, ce recueil ne comporte que 3 miracles, ce qui est pratiquement rien. Des miracles en faveur des Rouennais, mais en fait, pour le dire vulgairement, Nicolas a fait chou blanc dans cette affaire. Mais c'était tout de même, hein, dans la guéguerre contre l'archevêque, c'était quand même une pièce à conviction. Alors enfin, Nicolas se procure le corps de Saint Vulgan, qui est un ermite gallois, mais peut-être irlandais, qui reposait dans la ville de Lens. On ne sait pas très bien pourquoi Nicolas avait eu tout d'un coup une sorte d'engouement pour ce saint pas très connu. Alors, je continue toujours avec cette affaire de reliques. Sous son abbatiat à une date inconnue, mais postérieure à 1066, le corps de Saint-Ouen fut transporté en Angleterre pour imaginer un petit peu le voyage, en traversant la Manche, pour lever des fonds pour la construction de l'église abbatiale Saint-Ouen. On espérait que la vénération de Saint-Ouen en Angleterre, conquise par Guillaume le Conquérant, allait susciter la vénération des Anglais, qui évidemment verserait une obole, à l'occasion donc de leur venue. Alors, venue à Canterbury, l'archevêché de l'Angleterre, enfin un de deux archevêchés, mais aussi à Colchester et à Lincoln. Donc il y a eu une véritable tournée, en quelque sorte, des reliques de Saint-Ouen en Angleterre après 1066. Alors, à Saint-Ouen même, à Rouen même, un pèlerinage local s'est développé que rapporte le livre des miracles de Saint-Ouen, rédigé sous l'abbatiat de Nicolas. Et on constate que Saint-Ouen est un saint évêque polyvalent, guérisseur des paralytiques, des sourds, des mutiques, des aveugles, des personnes qui claudiquaient, des captifs, mais il punissait également les voleurs et les parjures. Ça n'était pas un saint qui avait une spécialité particulière, comme c'est parfois le cas. Au total, Saint-Ouen était présenté comme un saint sauveur pour les pèlerins qui ne pouvaient, par manque d'argent, se rendre par exemple à Rome ou même au Mont-Saint-Michel, qui était beaucoup plus loin quand on habitait aux alentours de Rouen. Un sanctuaire de substitution qui attirait néanmoins des malades, le livre des miracles nous le dit, depuis Rome, depuis l'Auvergne et même de la ville de Tours. On sait qu'un pèlerin pas satisfait des prières qu'il avait adressées à Saint-Martin de Tours et qui cherchait une guérison, s'est dit, je vais aller voir si Saint-Ouen m'apporte la guérison, et la guérison fut accordée. Alors, toujours dans ce registre de l'étude des reliques, mais avec un versant historiographique ou hagiographique, à partir de 1092, et donc encore une fois tardivement, mais sans doute a-t-il commencé à travailler préalablement, Nicolas a lancé la composition d'une vaste entreprise de mise par écrit de textes saints. Et c'est ce que l'on connaît sous le nom de Livre noir de Saint-Ouen de Rouen, aujourd'hui conservé à la bibliothèque municipale de Rouen, sous la cote que vous voyez écrite. Alors, livre noir, tout simplement parce que la couverture était noire. Ce n'est pas qu'il était noir. Effectivement, la couleur passe mal en bas, mais ce n'est pas parce que le parchemin n'a pas une belle couleur qu'il est noir. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un recueil de textes relatifs au passé de l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, relatifs à ses saints, à ceux qui sont particulièrement célébrés dans l'abbatiale, qui comportaient 311 folios, donc un volume volumineux, un livre volumineux. Ce manuscrit s'ouvrait par une copie des actes des archevêques de Rouen, c'est-à-dire une histoire de l'église rouennaise, rédigée par un chanoine de la cathédrale durant l'épiscopat de Jean d'Avranches, entre 1067 et 1079. Puis, à la suite de ces actes des archevêques de Rouen, on trouvait des vies de saints, des passions de martyrs, des translations de reliques, des récits de miracles, des panégyriques relatifs à plusieurs saints, Saint Nicaise, Saint Romain, Saint Ouen, Saint Nicolas et Saint Vulgan, et à d'autres saintes. Et puis on trouvait également un sermon en l'honneur de tous les saints qui reposaient dans l'église de Saint-Ouen. Alors, ce livre noir, il a été étudié par un de nos collègues de l'École pratique des hautes études, François Dolbeau, auquel j'emprunte ce qu'il a écrit. Il considère que le choix des saints retenus par Nicolas, qui devait présider à la rédaction et à la mise en forme de l'ouvrage, eh bien, le choix des saints retenus est directement lié à l'histoire de Saint-Ouen de Rouen. En effet, cet ouvrage réunit des dossiers très complets sur les saints particulièrement vénérés dans ce monastère, et les textes en question, ce sont des textes qui sont soit en prose, soit en vers, et ce sont également des pièces liturgiques qui permettaient donc de célébrer les saints. Des lectures privées, mais aussi des lectures publiques, telles qu'elles étaient dites, prononcées à l'intérieur de l'abbaye. Toutefois, et je continue avec François Dolbeau, il considère que la section consacrée à Saint-Ouen est la plus importante, puisque selon lui, elle occupe le tiers du volume. Donc c'est vraiment un ouvrage qui célébrait tous les saints, mais particulièrement saint Ouen. Donc, au folio 23 de l'ouvrage, on trouve un passage absolument exceptionnel. Il s'agit d'un anathème lancé par Nicolas à l'égard de ceux, ou de celui, ou de celle, qui entreprendrait de voler le livre noir. Alors, pour ceux d'entre vous qui arrivent à lire, l'anathème commence par la formule « Ego, je, Nicolaos, vous lisez peut-être, Abbas. » Après, je vais vous donner le texte, parce que je l'ai copié. Ben voilà que ça ne marche plus. Bon. Voilà. Donc, j'aurais voulu que vous le lisiez, mais c'est peut-être un petit peu loin. Voilà la formule. Ego Nicolaos Abbas omnis quae congregatio mi credita aeternitater excommunicamus et anathematisamus. Donc, moi, Nicolas, et toute ma congrégation, c'est-à-dire tous mes moines, nous excommunions et nous anathémisons quiconque, quicumque, alors le latin c'est un peu un latin de cuisine, mais enfin on s'y retrouve, il faut ensuite aller à la ligne 5, abstraxerit. Il y en a qui connaissent le latin? Alors Madame Santille, comment? J'entends pas. Oui, qui volera. Quolibet modo de quelque façon que ce soit. Sive dono seu furto vel latrocino, c'est-à-dire ou qui donnera, ou qui volera, ou qui commettra un larcin. Deleverit as litteras, qui déchirera ses lettres, vel folium inquiterit, qui déchirera un folio, qu'il soit sous la malédiction pour toute éternité. Bon, je vais à toute vitesse, hein, je vous dis l'essentiel. Et j'ai mis en gras les termes excommunicamus, anathematisamus, maledictioni. Alors, c'est assez bizarre parce que, j'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure, mais en principe, un abbé ne fulmine pas d'anathème à cette époque-là. L'évêque ou le pape. Mais l'abbé, lorsqu'il reçoit la bénédiction abbatiale, il reçoit un certain nombre de dons, il a le droit de faire un certain nombre de choses sur le plan liturgique, mais pas de fulminer un anathème. Alors, je reviendrai sur cette question-là, mais pour qu'il ait fait ça dans ce livre, c'est, je tiens à vous expliquer, mais je pense que vous l'avez compris, c'est qu'il tient à ces vite saints, hein, qui sont le cœur même de la liturgie monastique à Saint-Ouen. C'est la célébration de ces saints dont, pour certains, il s'est attaché à les collecter, à les faire venir. Alors, toujours dans ce livre noir de Saint-Ouen de Rouen, on trouve au folio 305 verso une superbe enluminure qui représente Saint-Nicolas. Qui représente Saint-Nicolas, qui se trouve dans une ce qu'on appelle une gloire en amande, c'est cette forme d'amande, hein, tout simplement, qui bénit de la main droite, et la lettre formée de tiges végétales s'achève par une tête de dragon, rehaussée de traits et d'un grenetis à l'encre rose et bordée d'un galon vert. C'est une superbe enluminure. Alors, malheureusement, l'image que j'ai n'est pas extraordinaire, mais vous n'êtes pas très loin de la bibliothèque municipale. Je pense que vous pouvez aller demander l'ouvrage. Et avec un peu de chance, la bibliothécaire... Comment ? Ah, on vous montrera que le microfilm numérisé. Oui, ouais, c'est mieux que rien. Voilà. En tout cas, le fait que Nicolas ait sans doute demandé à un enluminure de représenter Saint Nicolas dans un livre qui est essentiellement, enfin au moins pour un tiers, consacré à Saint Ouen, hein, c'est dire que le prénom qu'il portait comptait pour lui. Et je vous renvoie à ce que je disais au tout début. Alors, si je résume tout ce qu'il a fait sur le plan liturgique, sur le plan religieux, sur le plan géographique, même si on sait des choses pour la fin de son existence, puisque c'est sans doute au début de l'année 1092 qu'il commence à faire rédiger cet ouvrage, qui en fait sera terminé simplement au XIIe siècle, sans doute en 1100. L'intention y était, hein, et je pense qu'on peut retenir hein, qu'il a certainement passé tout son abbatiat à préparer ce livre noir. Alors, par ailleurs, Nicolas n'a sans doute pas joué un rôle politique important si on se replace à ce que je disais au tout début. Il aurait pu, en fait, essayer de constituer un noyau de conspirateurs autour de lui pour essayer d'arracher le pouvoir. Or, il ne semble pas l'avoir fait. La disparition de Robert le Magnifique en 1035, alors qu'il revenait de pèlerinage, il est mort à Nicée, dans l'actuelle Turquie, et l'arrivée au pouvoir en 1035 de Guillaume, entouré d'hommes qui allaient le conforter à la tête du duché, ont peut-être eu raison d'éventuelles velléités ou d'espoir pour Nicolas. En tout cas, il apparaît comme un homme d'église tout entier consacré à sa mission d'abbé. Il va même collaborer avec Guillaume. Les abbés bénédictins, que ce soit en Normandie ou dans tout l'Occident, toute l'Europe médiévale, avaient l'habitude d'une grande mobilité. En principe, les moines sont astreints à la stabilité, c'est-à-dire que en raison de la règle bénédictine, hein, ils ont prononcé un triple serment dans lequel il y a ce qu'on appelle la stabilitas, c'est-à-dire l'obligation de rester dans le monastère et d'obéir à l'abbé. L'abbé se doit aussi, alors il s'obéit à lui-même, mais il doit rester dans son monastère pour veiller sur son troupeau. Eh bien, les abbés passaient leur temps à s'extraire du monastère pour aller rendre visite au prince, pour aller visiter une autre abbaye, pour assister à une cérémonie, comme je vous le disais tout à l'heure. Et Nicolas n'a sans doute pas échappé à ce tropisme. On sait, en tout cas, qu'il n'est sans doute pas allé en Angleterre en 1046, lorsque le roi anglo-saxon de l'époque, Édouard le Confesseur, donna une île, accent circonflexe ILE, hein, une île, en Essex, à l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, une île sur laquelle plus tard sera constitué un prieuré. Très souvent, les abbés bénédictins, lorsqu'ils recevaient des biens en Angleterre, et là on est avant la conquête, hein, ils allaient prendre possession du bien. Nicolas n'est sans doute pas allé en Angleterre, car je pense qu'on l'aurait su. En revanche, on sait qu'en 1047, il joua... Je vais la reprendre. On pense qu'en 1047, il a pu jouer un rôle lors d'un conventus qui s'est tenu à Caen, d'où mon point d'interrogation sur l'image. Alors, qu'est-ce que c'est que ce conventus ? En 1047, Guillaume le Conquérant a vu son pouvoir battu en brèche par une coalition d'aristocrates en partie venant de l'ouest de la Normandie. Et il a dû y faire face, il a liquidé la conspiration, et tout laisse à penser que dans la foulée de cette conspiration vouée à l'échec, il a réuni une réunion que les textes appellent conventus, peut-être un concile, disons une réunion à Caen, pour sans doute faire prêter un serment de paix à tous les aristocrates, laïcs et ecclésiastiques, qui pouvaient se trouver autour de lui. Alors, le texte nous dit les circonstances, il est en latin mais je l'ai traduit, les circonstances exigeaient la tenue imminente d'un concile des évêques et des abbés de la province. On avait choisi le territoire de Caen en raison de l'abondance des productions. Il avait été unanimement décidé d'y transporter les corps des saints ainsi que leurs reliques sacrées. Notre père, le vénérable Saint-Ouen, en faisait partie. Une foule immense de personnes venues de toute la région afflua, etc., etc. Beaucoup résistèrent, plus particulièrement ceux dont la subsistance était assurée. En fait, ça a duré assez longtemps et au bout d'un moment, on avait faim. par la perspective des rapines engendrées par la discorde publique. En effet, la période est une période de flou politique. Hein, Guillaume a, semble-t-il, pendant quelques jours ou quelques semaines, semblé perdre la main. Et ce serment de paix qui fut prêté dans l'intérêt commun, avec réjouissance, etc., est pour Guillaume la reprise en main du duché en 1047. Alors, que nous dit le texte ? Le texte nous dit que les reliques de Saint-Ouen ont été extraites de l'abbatiale pour aller à Caen, Saint-Ouen étant considéré comme une sorte de grand pacificateur de la province ecclésiastique et donc de la Normandie, et c'est à ce titre qu'il est amené. La question que je me pose, c'est celle de savoir si Nicolas a conduit le cortège des reliques, s'il a accompagné les reliques, et s'il est parmi les abbés de la province dont il est fait mention à la ligne 2. Malheureusement, on ne le sait pas. On sait que le cortège a parcouru la moitié du chemin entre Rouen et Caen, et qu'à ce moment-là, un messager du duc Guillaume, est arrivé en disant « Mais attendez, Guillaume arrive et il va être dans le cortège avec Saint-Ouen. » Est-ce qu'il est arrivé ? On ne le sait pas trop. Donc on ne sait pas si Guillaume a fait le trajet de Caen à Rouen, on ne sait pas si Nicolas a accompagné les reliques sur le même trajet. Un certain nombre, encore une fois, d'énigmes non résolues. Il n'y a pas de raison de croire que Nicolas n'y était pas, mais pourquoi le texte tiré du livre noir ne le dit-il pas ? Est-ce que cette portion-là a été écrite après la mort de Nicolas ? Point d'interrogation. Nicolas, par la suite, va souscrire des chartes, c'est-à-dire apposer sa signature au bas de documents émanant de Guillaume, entre 1045 et 1066. Et, point très important, il va, en 1066, au moment de la cérémonie du 18 juin, fournir au duc qui prépare la traversée de la Manche pour la future bataille de Hastings, il lui fournit 15 bateaux et 100 chevaliers pour la préparation de la conquête. Il est le seul de tous les abbés normands à avoir fourni quelque chose. Et quand je dis fourni, cette donation est considérable. Cela représente une somme d'argent extrêmement importante. Alors, cette dédicace de la Trinité de Caen, elle est considérée en quelque sorte, non pas comme le point de départ de la conquête de la Normandie, mais comme une réunion préparatoire au cours de laquelle se sont trouvés réunis autour de Guillaume une quantité d'abbés, une quantité d'évêques et une quantité de grande aristocratie prêts à préparer la traversée en apportant de l'argent, parce que cette traversée coûtait évidemment extrêmement cher. Donc cette donation de bateaux et de chevaux, elle témoigne de la richesse du patrimoine de l'abbaye de Saint-Ouen de Rouen et sans doute la première place prise par Nicolas dans la liste des souscriptions dont je vous parlais tout à l'heure. Certes, il a été le premier à souscrire, mais ça n'est pas pour rien. Il y a plusieurs raisons, mais c'est aussi sans doute parce qu'il avait apporté énormément à la préparation de la traversée. Il gravite effectivement dans le premier cercle de l'entourage ducal, encore en 1066. Après 1066, son nom continue d'apparaître parmi les souscriptions au bas des diplômes du duc devenu roi d'Angleterre, et généralement, il est toujours le premier cité des abbés. En 1067, il atteste une confirmation royale de Guillaume le Conquérant maintenant, en faveur de son abbaye, et en 1073, il part à une date avant le 24 août 1073, assister, accompagner Guillaume dans la campagne du Maine. Le Maine avait été conquis par les ducs de Normandie, était une annexion de la Normandie, mais le Maine, dans les années 1072-1073, avait commencé à se révolter contre la tutelle normande. Et Guillaume avait dû préparer une campagne militaire, et comme dans toute campagne militaire de l'époque, un abbé ou un évêque, voire plusieurs, accompagnaient le duc, ne serait-ce que pour célébrer la messe avant la bataille et éventuellement après. Il accompagne le duc et il l'accompagne avec l'archevêque de l'époque, Jean d'Avranches. Donc, on voit qu'encore en 1073, Nicolas gravite dans le premier cercle autour de Guillaume. Les choses vont changer. Les choses vont changer à une date qui est un petit peu difficile à déterminer. Sans doute, à partir de 1078, Nicolas va devoir compter avec l'influence grandissante d'autres abbés qui vont petit à petit grignoter sa place, et notamment Anselme du Bec est loin, et Guillaume de Raux, qui est abbé de Fécamp. Les deux sont devenus abbés en 1078, c'est le hasard qui fait que c'est la même année. Par ailleurs, à partir de ces années 1070, on observe une rivalité grandissante, elle a toujours existé, mais je pense qu'elle est grandissante, entre le monastère de Saint-Ouen et la cathédrale de Rouen. En effet, les chanoines de la cathédrale voient d'un fort mauvais œil le développement du culte de Saint Nicaise, apôtre et martyr du Vexin, dont les reliques avaient été acquises bien avant Nicolas, puisqu'elles avaient gagné l'abbaye en 1032. L'abbaye, en effet, souhaitait faire reconnaître comme le premier évêque du diocèse Saint Nicaise, au détriment de Saint Melon, admis généralement comme le premier évêque depuis la période carolingienne. Donc c'était des chamailleries entre les deux, et les uns comme les autres tentaient d'imposer des dévotions concurrentes, notamment celle en l'honneur de Saint Romain, mais aussi celle qui avait lieu le 24 août chaque année, dont on a vu que Nicolas et Maury avaient théoriquement codifié l'organisation. Alors, voilà ce qui se passa le 24 août 1073. Les choses vont prendre une dimension tragique ce jour-là, lorsque, pendant l'absence de Nicolas qui était dans le Maine, pour les raisons que je vous ai expliquées, l'archevêque Jean rentrait plus vite que Nicolas et quatre moines de Saint-Ouen ont eu, dans l'abbaye, une véritable altercation. La messe anniversaire de Saint-Ouen devait se dérouler. L'archevêque était arrivé en retard, il revenait du Maine, mais revenu avant Nicolas, et les moines commencèrent la messe sans lui. Lorsqu'il entra dans l'abbaye, l'abbé de Saint-Martin de C, au diocèse de C, officiait à sa place. Jean, l'archevêque, excommunia les moines, qui quittèrent l'abbaye en désordre. L'affaire dégénéra lorsqu'un moine fit sonner les cloches de l'église, puis se précipita sur le parvis pour avertir la population que l'archevêque de Rouen voulait s'emparer du corps de Saint-Ouen. Une bataille rangée s'ensuivit. Finalement, le duc revint, jugea l'affaire dans un synode qui décida que les quatre moines qui avaient fait dégénérer l'affaire, qui étaient responsables du tumulte, allaient être relégués dans quatre monastères, histoire de les séparer. Jean, l'archevêque dut évidemment se réconcilier avec les moines, mais cet épisode révélait une querelle de voisinage entre les deux institutions rouennaises et surtout Guillaume s'interposant entre ses deux parents, Nicolas et Jean, pour faire cesser ce que je peux appeler la bagarre. Ainsi donc, Nicolas n'avait pas assisté à cette affaire, mais lorsqu'il était rentré, quelque temps après, eh bien, il avait trouvé quatre de ses moines relégués dans un monastère par le duc. On peut donc se demander si le livre noir de Saint-Ouen, composé à la fin ou immédiatement après l'abbatiat de Nicolas, ne s'était pas fixé pour objectif de rappeler la place éminente occupée jusque-là par le monastère dans l'histoire de la principauté. Alors, continuons avec les activités de Nicolas. En septembre 1087, il se rend à Caen, une fois de plus, enfin, si tant est qu'il y soit allé en 1047, mais il y était peut-être allé pour d'autres occasions, et en tout cas en 1066, à l'occasion des funérailles du duc roi. Mais cette fois, on conserve la liste que fournit Ordéric Vital de tous les abbés de la province présents, et les deux abbés de Rouen arrivent en dernière position. Avant-dernière pour Nicolas, dernière pour l'abbé de la Trinité du Mont. Le premier étant Anselme du Bec, qui avait acquis auprès du duc, maintenant mort, mais avant sa mort, une place de choix. Nicolas va effectuer un pèlerinage à Jérusalem, quelque temps avant de mourir. Il n'est pas le seul à avoir effectué un voyage pour la ville sainte, mais c'était une expédition très longue pour un homme maintenant âgé de 65 ans. À l'époque, c'était beaucoup plus âgé qu'aujourd'hui. Il mourut le 27 février 1092 à Nicée, comme le prince Robert le Magnifique. Sur le chemin du retour, il fut d'abord inhumé à Nicée, puis sa dépouille fut ramenée à Saint-Ouen de Rouen. Il est enterré devant l'autel de Notre-Dame de Saint-Ouen, au milieu du chœur, dans un sarcophage de bois peint de couleur brillante, sur lequel le moine Maurice a inscrit une épitaphe que nous a conservée Ordéric Vital, épitaphe en très élégante lettre d'or. Alors, vous avez le texte ici, je le traduis. « Amour et piété, fleur et honneur des moines, quittant ses membres, Nicolas vit dans le Seigneur. Avec amour, il dirigea le troupeau. Il fonda ce temple que tu vois. » Le temple, c'est l'église. Cette lumière s'éteignit lorsque Phoebus brûla les poissons. Cette dernière formule est difficile à comprendre. Je n'ai pas franchement de solution. D'une manière générale, cette épitaphe ressemble à toutes celles qu'on conserve pour cette époque, hein, très classique. Amour et piété, fleur des moines, il est mort, il vit dans le Seigneur, il dirigea le troupeau. Bon, c'est ni plus ni moins ce qu'on trouve dans beaucoup d'épitaphes. Le moine Maurice a peut-être copié d'ailleurs des épitaphes qui circulaient. Alors, très intéressante aussi, le fait qu'après sa mort, son successeur célèbre son anniversaire solennel en officiant pontificalement. Alors, cette formule doit être suspectée parce qu'elle nous vient d'un mauriste du XVIIe siècle, donc bien longtemps après la succession, mais néanmoins, comme on en dispose, on essaye de comprendre. Et le mauriste ajoute que toutes les cloches sonnèrent et qu'on en fit une aumône aux pauvres. Bon, jusque-là, les cloches qui sonnent et l'aumône aux pauvres, ça me paraît normal, mais qu'un abbé officie pontificalement, c'est-à-dire comme un évêque, c'est impossible. Donc, que veut dire ce personnage? J'y reviendrai. Son nom est inscrit dans plusieurs nécrologes. Et autre indication intéressante des mauristes du XVIIe siècle, Toustin et Tassin, dans leur nouveau traité de diplomatique, affirment avoir vu le sceau de Nicolas de Normandie, abbé de Saint-Ouen, qui, après avoir gouverné cette abbaye, pendant 50 ans, mourut l'an 1092. Malheureusement, ils ne citent pas leurs sources, ni ne décrivent ce sceau, ce qui pourrait rendre leur assertion douteuse et suspecte. Mais au même moment, on a le témoignage d'Anselme du Bec, qui, lorsqu'il quitte l'abbaye du Bec en 1093 pour devenir archevêque de Canterbury, écrit plusieurs lettres dans lesquelles il précise bien qu'il a abandonné son sceau aux moines du Bec au moment de partir. Et il y a d'autres exemples en Occident d'abbés qui, dans les années 1090, ont un sceau. Alors, malheureusement, on n'a pas le sceau de Nicolas. Le premier sceau que l'on conserve pour la Normandie des abbés, c'est le sceau de l'abbé du Bec Thibault en 1137. Et après tout, le sceau de Nicolas pouvait ressembler à ce sceau en amande, avec un livre dans la main gauche, la crosse abbatiale dans la main droite et la tonsure ecclésiastique de ses cheveux, avec une inscription ici, le sceau de l'abbé Thibault du Bec. Bon, là, on est encore dans l'hypothèse, mais il n'est pas impossible que Nicolas ait eu effectivement un sceau. Alors, il est temps de conclure. Le nom Nicolas avait pour objectif d'assigner le fils de Richard III à une fonction religieuse, ce dont, selon moi, il s'acquitta avec succès. Remarquons que Saint-Nicolas avait été évêque au IVe siècle, mais dans les années 1040, le siège archiépiscopal de Rouen n'était pas disponible, occupé qu'il était par Maugé. Nicolas ne pouvait donc pas devenir archevêque de Rouen. Nicolas fut éduqué et instruit du mieux possible et il servit son duc entre 1042 et les années 1070 et il fut sans doute un abbé des plus écoutées à la cour ducale. En acceptant d'envoyer des reliques de Saint-Ouen à Caen en 1047 et peut-être de les accompagner, puis en Angleterre en 1066, il acceptait aussi qu'elle quitte la capitale rouennaise au nom d'un nouvel équilibre géopolitique, tout en profitant sans doute de ces deux occasions pour renforcer l'identité religieuse de la Normandie autour de son grand évangélisateur, Ouen. Peut-être Nicolas fut-il un des derniers remparts d'une église et d'un duché qui éprouvaient des difficultés à se réformer. En 1097, mourut le demi-frère du duc Guillaume, l'évêque Audon de Bayeux, devenu, comme Nicolas, évêque à l'âge de 15 ans. Donc deux membres de la famille ducale à des dates assez proches, hein, évêque et abbé à l'âge de 15 ans. Il convient de remarquer encore que le successeur de Jean à la cathédrale, en 1079, fut aussi un moine de Saint-Étienne de Caen, et le successeur de Nicolas Elgo, en 1092, fut un prieur de Saint-Étienne de Caen. Le conquérant misait maintenant sur le centre et l'ouest du duché, mais jusqu'en 1092, lui et son successeur Robert Courteheuse purent compter sur le soutien sans faille de Nicolas. Enfin, et ce n'est pas la moindre des énigmes, c'est alors qu'il est déjà âgé, que le duc roi conquérant n'est plus, qu'il réunit une véritable collection de reliques. Était-il moins soutenu par Robert Courteheuse ? La question se pose. Et je voudrais terminer sur l'anathème, dont nous avons vu qu'elle ornait le folio 23 du Livre noir. En principe, je vous ai dit, seul un évêque peut prononcer ce qui est la plus grave sanction ecclésiastique, car un anathème exclut le criminel des sacrements et la société des fidèles, et sauf repentance, le voue à l'enfer. Alors, si Nicolas ne pouvait pas prononcer l'anathème, il faut proposer des hypothèses. Première hypothèse, il n'a pas le droit et il le prend. Si vous vous rappelez le texte, à la fin, il est question d'une malédiction. Alors, en fait, il joue le texte, peut-être rédigé par Nicolas, joue sur l'anathème et la malédiction. Un abbé peut lancer une malédiction, il ne peut pas lancer un anathème. Donc il joue sur les deux formules, sans doute pour effrayer le lecteur, pour le convaincre de ne pas voler le livre. Deuxième hypothèse, vu la date de 1092, le monopole épiscopal de l'anathème n'est pas encore clairement établi, il le sera plus tard avec le droit canon qui s'établira, et il est difficile de dire qu'il n'en a pas vraiment le droit, puisque le droit canon n'en dit rien encore. Troisième hypothèse, un certain nombre d'abbayes obtenaient du pape le privilège de pouvoir excommunier ceux qui s'en prenaient à leur privilège ou à leur bien, mais ça n'était pas le cas de Nicolas, qui n'avait pas obtenu ce privilège. À la date de 1092, je penche plutôt pour le flou du droit de prononcer l'anathème. Du coup, la formulation est aussi un moyen pour l'abbé Nicolas d'affirmer son autorité et sa dignité, entre guillemets, quasi-épiscopale. Ce qui renvoie à une autre énigme, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsqu'il meurt, son successeur célèbre son anniversaire solennel en officiant pontificalement, toute cloche sonnée. Nicolas n'avait jamais reçu les insignes pontificaux, c'est-à-dire les insignes d'évêque, et Elgo, son successeur, encore moins. Eh bien, je vous remercie.